si tout va bien du côté de la technique, nous sommes normalement au téléphone avec Christophe Géretti. Christophe Géretti, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour Christophe Géretti. Je vous demanderai si c'est possible durant cet entretien de parler un petit peu plus fort que d'habitude. Les liaisons téléphoniques ne sont pas forcément très très bonnes. Christophe Géretti, je rappelle que vous êtes maire sortant de Naves, une commune limitrophe de Tulle, et vous êtes également député La République En Marche de la première circonscription de la Corrèze. C'est à ce titre que je vous ai contacté. J'ai beaucoup de questions à vous poser, comme vous pouvez l'imaginer. La première, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation en Corrèze ?
La situation en Corrèze, nous l'avons fait hier avec Monsieur le Préfet et Madame la Déléguée de l'ARS, pour dire que déjà le point numéro un, c'est que les services sont en place, les centres hospitaliers et puis les services médicaux, on va dire libéraux, et les cliniques sont organisés maintenant en quinconce, ensemble, pour pouvoir faire face à l'éventuelle arrivée de nombre de personnes atteintes par le virus. Donc ça, c'est le premier point, je pense que c'est normal qu'on le dise. Hier soir, tout était organisé entre eux pour être au maximum opérationnel rapidement. Ensuite, on a le nombre de cas qui avait été évoqué. Donc, on en a 3 de plus, si mes souvenirs sont bons, hier. Et aujourd'hui, on attend les évolutions. Bien évidemment, on sait qu'on va être touché, comme tous les autres départements, progressivement par le virus.
Est-ce que, donc je rappelle, vous êtes député de la première circonscription de la Corrèze. C'est quoi le quotidien d'un député en cette situation exceptionnelle ? Comment fonctionne l'Assemblée nationale ? Quel contact avez-vous avec les autres parlementaires ?
Alors, on fonctionne toujours. Membre de la commission des finances, donc on était en télé ou plutôt en liaison téléphonique pour préparer la commission des finances et le projet de loi de finances rectificatives pour abonder en fait les opérations, c'est-à-dire les 45 milliards et les 300 milliards de garantie d'emprunt. Donc on a travaillé par téléphone, et visioconférence, ainsi que par mail pour pouvoir préparer la réunion de commission, puis le PLF qui a été validé hier soir à l'unanimité, c'est assez rare pour être souligné.
Vous pouvez préciser PLF ?
Ah oui, projet de loi de finances rectificatif justement au vu de l'épidémie et donc la problématique que nous rentrons en récession et le besoin urgent de crédits disponibles. Donc c'est ce qui a été voté hier, donc on a travaillé pendant 2 jours de cette façon-là où nous avions 3 représentants de chaque groupe, 2 ou 3 selon le type de groupe, à l'Assemblée nationale pour éviter la propagation et éviter les déplacements. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 2 jours. Et aujourd'hui, on travaille sur, qui suis concerné par les collectivités territoriales, on travaille avec le groupe et avec nos collègues députés par, bien évidemment, WhatsApp, Telegram et mail pour faire évoluer les lois qui sont proposées. Voilà. Et donc, comme on est dans l'urgence, on s'adapte à cette urgence-là, mais ça fonctionne, puisqu'on voit bien que le Parlement arrive à fonctionner avec des gens à distance. Sur le deuxième point, ça c'est le point on va dire national. Sur le deuxième point, il y a le plan local quand même qui nous prend un peu de temps. À la fois mes collaborateurs et moi, nous avons énormément d'appels téléphoniques pour connaître les modalités d'application, soit des mesures économiques, soit des mesures sanitaires. Et ça effectivement, ça change à peu près tous les jours, ça évolue très vite. Et donc on essaie de répondre au mieux à la fois aux chefs d'entreprise, à la fois à la population et aussi aux administrations avec lesquelles on se concerte.
Vous pensez que la continuité des services de l'État va être assurée ?
Elle est déjà assurée. On a mis en place des services, on va dire, partiels, qui ont été adaptés selon les besoins et avec les services d'urgence qui sont préparés dans les services publics. Donc ça, c'est déjà organisé, que ce soit à la préfecture, que ce soit dans les collectivités territoriales. C'est les premiers éléments qui ont été mis en place lundi et mardi dans notre département. Donc pour l'instant, on arrive à faire face avec l'organisation qu'on a mis en place.
Vous parlez d'urgence. Édouard Philippe a annoncé qu'allait être mis en place un état d'urgence sanitaire. On en est où de ce côté-là ? En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va changer par rapport au confinement ?
Alors, le premier premier élément, c'est que c'est en cours. Le Sénat a voté hier le titre 2 qui régit justement, qui légifère, pardon, ce nouvel état d'urgence sanitaire qui n'existait pas. Il est actuellement en commission, puisque je l'ai en direct sur mon ordinateur. Il démarre en commission de l'Assemblée nationale, donc ça devrait terminer demain en commission paritaire pour aboutir à l'état d'urgence qui est quelque chose qui n'existe pas. État d'urgence sanitaire qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc ça consiste en plusieurs éléments. Le premier, c'est que ça va permettre à l'exécutif de mettre en place certaines prorogations, c'est-à-dire des décrets qui ont été pris justement pour limiter les déplacements en raison sanitaire. Et donc par définition, il fallait absolument légiférer puisqu'il y avait qu'un mois de validité des décrets. Et donc on en a profité. Le gouvernement a profité pour lister une partie des mesures qui pouvaient être à même à disposer de pouvoirs spécifiques pour l'exécutif. Voilà. Donc il y a des compétences d'infraction diverses et variées qui vont être mises en œuvre après cette loi-là pour permettre à l'exécutif et aux services déconcentrés de faire appliquer soit les mesures de restriction de déplacement, soit les mesures d'adaptation du travail et donner les pouvoirs nécessaires pour qu'on fasse face à la crise.
Bruno Le Maire a annoncé plusieurs mesures pour soutenir l'économie et aussi pour que le pays fasse face à cette crise sans précédent. On parle de 45 milliards, 300 milliards. Il a annoncé ce matin sur LCI qu'il encourageait vivement les entreprises à verser une prime exceptionnelle, une prime défiscalisée de 1 000 euros aux salariés qui continuent à travailler. Vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair dans ces chiffres, 45 milliards, 300 milliards, cette prime de 1 000 euros. Je rappelle que vous êtes membre de la commission des finances.
Oui, alors premier élément, les 300 milliards, c'est des garanties d'emprunt qui seront tenues par l'État pour permettre aux entreprises de vivre et de survivre pendant cette période-là. Donc ça, c'est uniquement les garanties d'emprunt, mais qui permettent de solidifier en fait les problématiques d'entreprises qui ne vont pas avoir d'activité pendant les 2 mois qui arrivent. Sur les 45 milliards, il y a à l'intérieur de ces 45 milliards une dizaine de milliards qui sont des crédits directs pour faire face en fait aux problématiques des entreprises, c'est-à-dire la mobilisation de plusieurs éléments de paiement des entreprises qui vont être en difficulté. Il y a plusieurs milliards, des dizaines de milliards qui sont le report des échéances sociales et fiscales, des impôts directs ou de l'URSSAF, bien évidemment, parce que par définition, on ne peut pas ponctionner les entreprises à cette période-là alors qu'elles n'ont pas d'activité. Il y a aussi 2 milliards qui ont été votés pour les hôpitaux pour faire face aux indemnités journalières et à l'achat de masques en urgence, bien évidemment. Donc ce sont des exemples de mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi hier. Et ce sont des mesures économiques qui permettent à l'activité, et seulement à l'activité ou aux entreprises, de survivre ou de vivre tant bien que mal avec cette problématique de la crise sans activité pendant les 2 mois qui arrivent. Voilà, et ça permettra aussi, en dernier élément, de financer le dispositif de chômage partiel qui est aujourd'hui de plus en plus mis en œuvre par les entreprises.
Alors,
oui, non, juste, je voulais finir sur la prime de 1 000 euros. Effectivement, c'était quelque chose qui n'a pas été évoqué. C'est une annonce du ministre de l'Économie. Cette prime-là, elle est dans la logique de la prime de 1 000 euros qui avait été mise en place en loi de finances l'année dernière, qui était la prime de 1 000 euros défiscalisée. Donc pour permettre, c'est un cadre qui existe déjà, qui permet aux entreprises de le payer sans avoir de cotisation derrière.
Mais alors concrètement, moi qui suis salarié d'une association qui a un budget vraiment limité, qui ne peut pas se permettre en fait des écarts, l'association ne pourra pas me verser cette prime exceptionnelle défiscalisée, même si elle est défiscalisée, et pourtant je continue à travailler. Est-ce que il y a des mesures qui seront prises quand même pour aider les entreprises qui ne peuvent pas en fait verser ces primes, même si elles sont défiscalisées?
Petites entreprises, les indépendants ou les associations, aujourd'hui on a fait la masse, c'est-à-dire pour déclencher les opérations de mesures économiques, et après on va être très très clair avec les gens, il va y avoir des évolutions, on va dire quasiment journalier pour voir l'impact sur diverses activités. Et donc ces activités-là vont être ciblées au fur et à mesure pour pouvoir trouver les solutions les plus adéquates. Aujourd'hui, on est sur la masse générale parce qu'il faut aller dans l'urgence économique, macroéconomique, et après on va rentrer dans le détail des activités qui vont être touchées. C'est là-dessus où on est énormément sollicité localement, nous les parlementaires, puisque chaque type d'activité a sa problématique, comme vous l'évoquez. Et donc, bien évidemment, dans des mesures générales, on ne retrouve pas ces activités. Aujourd'hui, on sait que les activités qui sont issues de l'arrêté du 15 mars, c'est-à-dire la fermeture définitive et annoncée par le gouvernement, celles-ci sont prises en compte tout de suite. Et après, comme on est en arrêt progressif des activités, on est dans un deuxième temps qui va arriver au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il y a des ordonnances qui vont être votées aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le deuxième projet de loi lié au Covid, qui vont permettre au gouvernement de préciser tous ces éléments-là.
C'est-à-dire que pour les auto-entrepreneurs, par exemple, ou les intermittents du spectacle, ce sera précisé dans la dans
voilà,
ce...
Voilà, c'est ça. Il y a déjà des choses qui existent, puisqu'il y a une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises ou les indépendants, qui déjà est mise en œuvre. Là, il n'y avait pas besoin de le voter, puisqu'on a les crédits. Donc après, c'est le gouvernement qui le met en place. Pour la culture, il y a 22 millions, si on parle de ces éléments-là, qui ont été débloqués. Et après, c'est l'exécutif qui va distribuer et réglementer la distribution de ces éléments-là. Et au fur et à mesure qu'on va avoir les types d'activités, les choses vont se mettre en place, puisque là, nous n'aurons plus besoin de loi, ou dans 2 mois, on en aura besoin peut-être d'une autre, mais on a débloqué les ensembles financiers et permis à l'exécutif de travailler par ordonnance. Enfin, ce soir, nous aurons permis. Voilà.
Vous pouvez rappeler rapidement ce que sont les ordonnances ?
Les ordonnances, ça va permettre à l'exécutif de faire une forme de législation et que nous, on validera après avoir appliqué l'ordonnance, 1 mois après la sortie de celle-ci, la publication. Et ces ordonnances vont permettre au gouvernement de préciser les mesures économiques ou les mesures techniques qui ne peuvent pas être inscrites dans la loi. Et ça permet de gagner du temps, puisque nous, on ne peut pas non plus se rassembler comme tout le monde régulièrement. Et après, nous, on analyse une fois les ordonnances prises et on les valide, c'est-à-dire qu'on les ratifié au sein de l'Assemblée nationale 1 mois après la prise de l'ordonnance ou des ordonnances.
Christophe Géréti, je rappelle que vous êtes député de la première circonscription de la Corrèze, vous êtes membre de la commission des finances. On vient d'évoquer des chiffres qui sont vertigineux. Vous avez une idée de l'impact qu'aura cette crise et notamment ces mesures exceptionnelles sur le fonctionnement de l'État plus tard ?
À long terme, non. On sait qu'à court terme, on passe en récession, c'est-à-dire qu'on aura une croissance de moins 1% déjà si pendant 2 mois, on a l'arrêt de l'activité comme on l'imagine. Et donc, on va ajuster au fur et à mesure puisqu'on sait que le déficit conjoncturel va augmenter et qu'on est par définition dans une perte d'activité, donc une perte économique et donc une perte financière pour l'État. On table pour l'instant sur 2 mois en espérant que ça ne soit pas non plus long pour le problème sanitaire, bien évidemment, et au niveau économique derrière, parce qu'il faudra trouver des solutions à terme pour compenser ces pertes-là, puisque chaque budget est calculé sur la croissance, et on était calculé sur une croissance de 1,3. Et on sait déjà qu'on va passer à moins 1%, comme globalement toute l'Union européenne.
La France bénéficiait de taux d'emprunt négatif jusqu'à il y a peu. De mémoire, il me semble qu'il y a 2 jours ou hier, ces taux d'emprunt sont passés à plus 0,25%. Il faut surveiller de ce côté-là ?
Oui, c'est surveillé déjà, puisque la Banque Centrale Européenne va mettre de la liquidité. Il y a 1 000 milliards globalement qui vont être mis dans le circuit. Et pour l'État français et même pour tous les autres États, on va surveiller ces évolutions de taux. Mais les banques vont aussi faire des efforts, puisque tout le monde doit en faire, pour pouvoir limiter leurs augmentations. Mais aussi, ça va permettre de réguler toute la partie taux sur l'ensemble de l'Union européenne, puisqu'on sait qu'il y a des pays qui étaient en grande difficulté pour avoir des taux plutôt bas, comme l'Italie, et aujourd'hui, ça leur permet d'avoir des taux plus bas que ce qu'ils avaient avant la crise. Donc voilà, on est dans une logique où cet élément-là est maîtrisé, et nous l'espérons, par la BCE, puisque la BCE organise en fait toute cette problématique d'augmentation et de baisse de taux. Nous sommes passés au-dessus, mais nous sommes encore à des taux très très raisonnables qui ont un impact plus limité que si on avait des taux beaucoup plus élevés comme il y a quelques années.
Je voudrais revenir un instant sur l'intervention d'Emmanuel Macron de ce lundi. Alors, ça n'engage que moi. Personnellement, j'ai trouvé la première partie de son intervention très confuse, voire imprécise. Alors, on apprend qu'on ne doit pas sortir, mais on peut sortir quand même. On ne doit pas aller travailler, mais on peut quand même aller travailler. Le président de la République qui nous donne des conseils de lecture. En seconde partie de son intervention, il a martelé plusieurs fois « Nous sommes en guerre ». Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Est-ce que vous trouvez, vous, en tant que citoyen, avant votre impression de député, est-ce que vous trouvez que Emmanuel Macron a bien nommé les choses?
Alors, il a bien nommé les choses sur la deuxième partie, et effectivement, il a tenté de chercher un équilibre sur la première partie entre la partie économique et la partie sanitaire. Et effectivement, ça a certainement jeté un doute en tant que citoyen. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment retenir la deuxième partie. Et je pense qu'il a eu raison de parler de guerre sanitaire, parce que on le voit bien, on vient de voter un état d'urgence. Et un état d'urgence est souvent en temps de guerre. Sur la première partie, effectivement, il avait la nécessité de trouver l'équilibre dans les mots. C'est toujours difficile de travailler sur les mots, et notamment sur l'équilibre sanitaire et économique. Mais on sait qu'il faut arriver à ménager les uns et les autres pour pouvoir aboutir à une réponse politique assez forte.
Il y a deux jours, Agnès Buzyn a fait des déclarations dans Le Monde qui sont d'abord passées relativement inaperçues et qui sont en train de remonter. Agnès Buzyn a lancé finalement une véritable petite bombe à retardement. Alors, je la cite, Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé avant de se lancer dans la campagne des municipales à Paris. Agnès Buzyn, donc, ouvrez les guillemets. « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je suis parti en sachant que ces élections n'auraient pas lieu. Depuis le début de la campagne électorale, je ne pensais qu'à une seule chose. Au coronavirus, on aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. » Alors, est-ce qu'Agnès Buzyn a perdu toute crédibilité, et comment vous avez réagi à ces propos de l'ancienne ministre de la Santé qui dit donc qu'elle a averti le Premier ministre le 30 janvier?
Alors, de façon partiate, nous n'étions pas présents, bien évidemment, les députés, lors de ces interventions, mais on peut relever qu'au ministère de la Santé, effectivement, ils observaient bien ce qui se passait dans les autres pays, donc je pense qu'ils avaient quelques éléments. Il leur manquait les dates, et on va dire la période d'arrivée, et je pense que c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait dans notre pays, avec force, par le biais de l'Italie probablement, et on a vu qu'en Italie, ça a été pareil. Donc c'est peut-être là-dessus qu'Agnès Buzyn a pu alerter le maximum de choses avant de partir, c'est-à-dire 4 semaines avant les élections municipales, donc je pense autour du 15 février, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est sur cet élément-là, je pense qu'elle a vu arriver les éléments, qu'elle savait que les choses allaient arriver. Après, sur la décision, le fait ou non d'annuler les élections, je ne sais pas si un mois avant on était en capacité de le dire ou de l'affirmer de cette façon-là. Voilà. Je peux dire, après, par rapport à son intervention, effectivement, ça peut semer le doute, mais on a toujours des doutes quand on est en politique, et on a toujours besoin de réfléchir au fur et à mesure des avancées. Et puis là, on voit bien qu'au jour le jour, on est en train de faire évoluer à la fois la législation, à la fois les positions politiques, voire les positions humaines.
Le premier tour des élections municipales a été maintenu a priori suite à vraiment des petites mesquineries, je dirais, de politique politicienne, à savoir les Républicains qui auraient bloqué, enfin qui auraient signifié à Emmanuel Macron qu'ils empêcheraient l'annulation de ce premier tour. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Ce que je vous demande, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à une union nationale en ce moment?
Dire que l'Union nationale, elle est au moins de façade. J'espère qu'elle est de façon durable. Par rapport à ces élections, effectivement, il y a toujours une problématique politique et de négociation politique, et on l'a vu, puisque aujourd'hui, on voit bien que ce qui est voté, ce qu'on réclamait pour certains, ce qui a été voté hier par le Sénat, proposé par le Sénat, c'est le report d'une partie des élections. Et donc, par définition, on voit bien que maintenant, tout le monde est mal à l'aise par rapport à ces élections-là, qui, effectivement, je pense que la semaine d'avant, alors jusqu'au mercredi, peut-être on ne pouvait pas imaginer qu'elle soit repoussée, mais à partir du vendredi, du samedi, tout le monde a bien compris que le deuxième tour n'aurait pas lieu. Donc je pense que l'Union nationale doit travailler sur 3 points. La problématique de la démocratie, on voit qu'aujourd'hui on l'a mise à mal en ayant laissé travailler les éléments démocratiques à une période où on sait qu'on aurait eu du mal à aller au bout du process démocratique. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait une union sur la partie économique et sanitaire, c'est-à-dire que tout le monde qu'aujourd'hui, on est obligé de confiner, si on veut dire, la partie sanitaire, de mettre en stand-by une partie des activités pour éviter une propagation forte de cet élément-là. Et donc après, nous verrons bien si des responsabilités sont à mettre en œuvre. Mais je crois très sincèrement qu'on est au-delà de ces éléments-là et que l'Union nationale, à la fois des parlementaires, que ce soit Sénat, Assemblée nationale, des exécutifs, quelle qu'il soit, collectivité, État, et de la population, quelle qu'elle soit, doit être unanime pendant cette période des 2 mois.
Lors de son intervention lundi, Emmanuel Macron a évoqué ce qu'il appelle le jour d'après. Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins de France, a déclaré, ouvrez les guillemets, « ça va gueuler et ça va gueuler fort ». Il réclame plus de moyens pour réorganiser le système de santé. Ouvrez les guillemets à nouveau, « l'administration devra rendre des comptes. Je veux une commission d'enquête pour savoir comment on a pu laisser la France sans protection. J'espère que le gouvernement aura compris l'importance d'avoir un système de santé qui fonctionne. Je l'espère vraiment. » Donc ça, c'est des propos tenus par Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. Si une commission d'enquête était réclamée pour faire le point sur la gestion de cette crise sans précédent, est-ce que vous soutiendrez cette initiative, d'où qu'elle vienne ?
Oui, mais je pense que de toute façon, il y en aura probablement une. Et dans le titre 4 qui a été voté hier au Sénat, qui a été rajouté par les sénateurs, il y aura un contrôle parlementaire suivant la loi derrière. Donc par définition, il y aura un travail parlementaire, commission d'enquête ou autre, non, puisqu'il y a eu un titre qui a été rajouté pour avoir un suivi sur la problématique du Covid. Donc déjà, les choses sont en train de se mettre en place pour travailler sur ce qui s'est passé et puis quelles sont les conséquences et surtout qu'est-ce qu'on fait évoluer. Parce que le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait évoluer. Et nous voyons bien aujourd'hui que tout en ayant, on va dire, le pays de l'Union européenne qui met l'argent dans son système de santé, hein, on le sait, la France est le pays qui met le plus d'argent dans ce système de santé, on voit que la gouvernance ou l'organisation quand même pose problème sur cet élément-là. Donc c'est pas qu'une question financière, c'est aussi une question d'organisation, mais c'est des choses qu'on avait pu quand même entendre ou voir dans différents rapports qu'on avait une problématique plutôt de cohérence dans nos systèmes de santé plutôt que de finance. Alors bien évidemment, il y a certainement des choses à revoir, mais ça sera certainement, et comme l'a dit le président de la République, le jour d'après où on pourra modifier notre façon de travailler sur pas mal de sujets, notamment en matière santé.
Justement, en matière de santé, cette crise met en lumière l'importance vitale des hôpitaux en France. Le jour d'après, toujours d'après Emmanuel Macron, ne faudra-t-il pas revoir le financement des hôpitaux ? En tout cas, je rappelle que les urgentistes étaient en grève depuis plusieurs mois avant le début de cette crise. Est-ce qu'il va falloir revoir complètement le financement des hôpitaux et débloquer des crédits en urgence après cette crise ?
Déjà débloqué. Ça fait 2 ans qu'on fait évoluer ce qu'on appelle l'ONDAM pour que les hôpitaux aient plus de marge. Ça n'avait pas été fait depuis des années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, le système de financement aussi a été mis en modification, hein, plus à la tarification directe. Donc, il y a des choses qui évoluaient déjà avant. Donc, tout le monde s'était aperçu qu'il y avait un problème de financement et d'organisation financière sur les hôpitaux. Donc, sur cette partie-là, il y a des choses qui ont été avancées et qui ont évolué. Après, bien évidemment, on va automatiquement retomber sur l'évolution de notre système hospitalier, des urgences, directement en lien avec cette crise. Et bien évidemment, ça nous permettra d'ajuster sûrement beaucoup de choses. Et je ne vais pas dire qu'il faudra réfléchir à une organisation nouvelle, mais certainement une organisation beaucoup plus poussée en matière de coordination entre tous les services et toutes les opérationnalités en matière de santé.
Christophe Géréti, je rappelle que vous êtes député de la Corrèze. Je voudrais terminer cet entretien avec une question qui n'engage que moi. Emmanuel Macron avait expliqué, on s'en souvient, l'importance pour la société française de ceux qu'il appelle les premiers de cordée pour faire avancer la France. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces fameux premiers de cordée qui sont majoritairement en première ligne pour lutter contre cette épidémie. Les personnes qui sont en première ligne sont évidemment tous les agents du personnel soignant, mais je pense aussi au personnel des supermarchés, des commerces alimentaires, je pense aux conducteurs et aux conductrices de poids lourds qui sillonnent la France pour livrer arriver pour livrer les produits de première nécessité. Je pense aux élus locaux aussi qui sont sur le terrain, aux policiers, aux gendarmes, etc. Je rappelle, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant, a dit Emmanuel Macron. Quand le jour d'après sera venu, ne faudra-t-il pas repenser complètement le modèle idéologique de la majorité présidentielle dont vous faites partie ?
Je ne suis pas sûr que ça soit lié à l'idéologie. Il faut toujours des directeurs et des directions pour diriger. Mais par contre, on le fait pas sans les gens qui travaillent avec nous. Et donc, c'est à mon avis quelque chose qui est réel dans tous les systèmes. Chacun a sa place et la place collective doit primer sur la place individuelle. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'effort collectif qui va permettre de sortir de cette crise et non pas que le seul effort individuel ou se recroqueviller sur son individu lui-même. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit une problématique de majorité actuelle. Je pense qu'on a toujours eu des hommes à la tête de l'État, quels qu'ils soient. On a toujours eu des gens qui travaillent, quels qu'ils soient, dans différents domaines. Et l'objectif, c'est de faire au mieux pour que l'ensemble des éléments fonctionnent ensemble. Et c'est ça l'organisation de la démocratie et de l'État d'aujourd'hui. Donc il faut, à mon avis, probablement plutôt ajuster les évolutions de responsabilité collective en lien avec l'individu, plutôt que d'aller remettre en cause tous les systèmes, parce que je ne suis pas sûr que dans un autre pays qu'à un autre système, les choses soient mieux ou moins bien. L'objectif, c'est qu'on arrive à répondre rapidement quand il y a une problématique comme on a aujourd'hui, et on voit bien qu'on arrive à évoluer tous les jours. Et pareil, quand on est en période de croissance ou de glorieuse, comme à l'époque des 30 glorieuses, eh bien, il faut qu'on fasse avancer le pays collectivement.
Vous parlez du collectif, si vous me l'autorisez, ça me fait penser à une dernière question, si vous avez un petit peu de temps pour y répondre, est-ce que je peux vous la poser ? Je pensais à ça hier soir, je me disais, est-ce que la seule façon de réorganiser la France, une fois qu'on sera sorti de cette crise, est-ce que ça ne serait pas de mettre en place un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement d'ouverture qui intégrerait, j'allais dire, les meilleurs personnes, d'où qu'elles viennent, que ce soit de gauche, de droite, des écologistes, de la société civile, ne faudra-t-il pas mettre en place vraiment un gouvernement d'union nationale ?
C'est une question. On a des gens divers hein, déjà à la tête de l'État, dans les ministères. Hein. On voit bien qu'il y a des gens qui sont plutôt issus de la droite, issus plutôt de la gauche, issus plutôt de l'écologie. C'est quelque chose qu'avait tenté de faire Emmanuel Macron sous une forme différente avec un mouvement et en regroupant les gens. On voit qu'en Allemagne, il y a une coalition qui est assez large. On voit aujourd'hui qu'elle s'essouffle parce qu'on voit bien que les coalitions ont aussi leurs difficultés. C'est une question qui pourra être posée. Le président prendra sa décision sur cet élément-là. Moi, j'ai pas de contre-indication à ce que ça arrive. Je travaillerai exactement dans la même optique pour faire avancer le pays et le territoire corrézien. Donc, si ça doit être mis en œuvre, je pense qu'il faudra le faire. Si on considère que c'est pas la meilleure solution et qu'il vaut mieux plutôt garder les personnes en place pour aboutir les évolutions nécessaires au vu de la crise qu'on a eu, il faudra le faire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Il faudra trouver celle qui sera la plus adaptée au moment venu et puis que tout le monde puisse la comprendre. Voilà. Moi, je ne suis pas contre qu'il y ait une coalition, que ce soit après la crise ou dans une prochaine mandature. Peut-être que ça sera l'évolution de la France.
Christophe Géréti, merci. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription de la Corrèze, député La République En Marche, et que vous êtes membre de la commission des finances. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.